et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie et lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Bonsoir, 19h passé de 2 minutes à la pendule la plus rebelle des radios, il est l'heure du Canu Info, comme tous les jeudis, c'est l'équipe animée par Delphine.
Bonsoir Laurent.
Et nous allons faire un petit tour de l'actualité en commençant peut-être par parler de Monsieur Macron, qui a reçu cette semaine, vous avez peut-être entendu en grande pompe, le dictateur président Abdel Fattah al-Sissi. Alors on va refaire justement tout de suite un petit point sur la répression qui s'est abattu sur la société civile égyptienne, qui concerne des dizaines de défenseurs des droits de l'homme, des dizaines de journalistes. Alors, dans les chiffres qu'on peut avoir, on trouve 11 personnes, donc journalistes, derrière les barreaux, 10 qui ont vu leurs avoirs personnels gelés, 28 ont eu une interdiction de quitter le territoire égyptien. Et ça c'est juste pour les journalistes, je vous parle pas du nombre d'opposants qui croupissent en prison, dans le meilleur des cas. Hein, dans le pire des cas, ils sont morts d'une balle dans la tête. Puisqu'on notera un développement très très important du harcèlement judiciaire, policier, des disparitions forcées, de la torture, des mauvais traitements, que ce soit dans les commissariats ou dans les prisons, qui se sont multipliés depuis l'arrivée autoritaire au pouvoir de Monsieur Sissi. Alors, on rappellera aussi que quel que soit le motif des arrestations, en fait, l'État accuse systématiquement tout le monde de terrorisme. C'est comme ça, ça règle les problèmes. On notera aussi ce qui peut se passer dans le Mont Sinaï, où il y a une rébellion importante, notamment portée par le groupe Wilayat Sina, qui est affilié à l'État islamique. Il serait crédité d'à peu près 1000 combattants. Or, l'État égyptien annonce 6000 terroristes morts dans le Sinaï. Bon, ça veut dire que grosso modo, il y en a 5000 qui n'étaient pas des terroristes. Et effectivement, dans la répression que met en place l'État égyptien dans le Sinaï, dans le nord du Sinaï surtout, et ben ça tue essentiellement des innocents, des habitants, des civils, avec essentiellement des exécutions extrajudiciaires, hein, de manière militaire, hein, puisque c'est souvent les forces de sécurité égyptiennes qui sont accompagnées de l'armée qui assassinent donc à tour de bras dans cette région et ailleurs aussi. Donc là c'est pour le nord Sinaï, qui est une région un petit peu particulière. On a vu aussi apparaître ces dernières années quelques lois qui criminalisent un peu tout le monde. Hein. On se rappellera de celle de novembre 2013 qui criminalise les manifestations, qui interdit toute forme de dissidence pacifique. Hein, c'est fini les révolutions. La presse indépendante n'existe quasiment plus. Les violences contre les minorités se sont énormément développées. Alors on a vu les chrétiens coptes subir les représailles, les assassinats de militants islamistes, mais sans que le pouvoir ne fasse quoi que ce soit, hein, pour protéger ces coptes. On a vu les militants ou simplement les militants LGBT et simplement les homos. Eux aussi souffrir des attaques des services de sécurité de l'État. Là, c'est devenu très flagrant ces derniers mois. Donc voilà, grosso modo, Macron a reçu ce personnage. Alors, comme Macron est quelqu'un d'intelligent, il est cultivé, il suit l'actualité, il sait exactement ce qu'il fait. Donc il assume de recevoir ce criminel qu'est M. Abdel Fattah al-Sissi, alors qu'il avait d'autres alternatives. On imagine bien, il aurait pu en parler, dire « je condamne ça de l'Égypte ». Il aurait pu dire « voilà, c'est plus possible que la France soit associée à ce régime-là ». Donc il aurait pu bloquer le commerce, bloquer les ventes d'armes. Il aurait pu faire plein de choses que bien évidemment il n'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il est d'accord, puisque quand on ne fait rien, c'est qu'on est d'accord, qu'il ne dit mot qu'on sent, c'est bien la phrase bien connue, et que met en œuvre donc le président Macron. Il s'associe donc volontairement à tous ces meurtres, à tous ces assassinats, à toute cette répression mise en place par le criminel dictateur Monsieur Fattah al-Sissi. Alors vous me direz, parce que c'est pas un peu la même chose en France, tout ça? Non. La France est un pays qui a des libertés un petit peu plus implantées, même si la police assassine de temps en temps. Et aujourd'hui, on se rappellera que ça fait 3 ans, très exactement aujourd'hui, le 26 octobre 2014, Rémi Fraisse, militant, manifestant pacifique, s'opposant au barrage de Sivens, une aberration écologique, une aberration environnementale, était tué par un gendarme, donc dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014. Et ensuite, suite à son meurtre, pas grand-chose. Pourtant, le 23 octobre 2015, la Ligue des droits de l'homme avait présenté les conclusions de la commission d'enquête citoyenne lancée après la mort de Rémi. Alors, elle visait, je cite, à recenser systématiquement les faits liés à cet événement, à analyser son contexte et à apporter ainsi un éclairage sur les conditions qui ont conduit à la mort de ce jeune militant écologiste sur le site de Sivens. Je cite les propos de la Ligue des droits de l'homme. Et la conclusion du rapport, elle dénonce, je cite, un régime de violence policière qu'aucun citoyen attaché aux règles démocratiques ne saurait tolérer, et je cite toujours, la légalité douteuse des opérations de maintien de l'ordre menées à Sivens. Malgré tout ça, on peut que constater qu'aujourd'hui, comme en Égypte finalement, la police peut tuer, puisque le gendarme tueur, qui est connu, tout le monde connaît son nom, n'a jamais été ni poursuivi ni condamné, rappelant ainsi finalement qu'en France comme en Égypte, la police, dans certaines conditions beaucoup plus limitées en France, certes, qu'en Égypte, a le droit de tuer sans passer devant les tribunaux. On s'était dit, tiens, aujourd'hui, Macron va peut-être placer quelque chose. Eh ben non, il n'a rien dit, il n'a pas rendu hommage à Rémi Fraisse, contrairement à ce que nous faisons, nous, ici, au Canu Info, puisque nous n'avons pas oublié l'assassinat, la mort, vous appelez ça comme vous voulez, de ce militant qui n'était, lui, pas armé, on le rappellera. Donc voilà, ce président, M. Macron, commence sérieusement à avoir du sang sur les mains, que ce soit avec ses amitiés sulfureuses ou ses non-dits. On rappelle qu'il a reçu il n'y a pas longtemps les forces de police. À aucun moment il n'a évoqué les violences policières. On pense à Amada Traoré, on pense à d'autres jeunes gens, ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont morts ou qui sont blessés sous les coups de la police. Voilà, c'est le président de la répression, finalement. On pensait que c'était le président de l'économie, le président du libéralisme. C'est aussi le président de la coopération avec des criminels comme M. Sissi. Et c'est aussi le président de la compromission avec la répression policière et avec les forces de police. Voilà donc ma petite intro sur l'actualité du jour en lien avec Rémi Fraisse. Je vais quand même vous dire que nous allons parler un petit peu de Thaïlande, puisque il y a des funérailles, je crois, aujourd'hui. On va parler un peu de Tchéquie, c'est un peu la suite des infos de la semaine dernière. On va parler pas mal de l'extrême droite, que ce soit à Chambéry ou dans le sud de la France. On va encore parler de la police avec un site pour les enfants.
Policejunior.fr, je vous ai trouvé un truc magnifique.
Alors, on va parler de contraception, on parlera de Macron encore en Guyane. Donc voilà un petit peu le programme de ce Canu Info, et commençons donc par la Thaïlande.
Majestueuse, grandiose funéraille, j'ai pu lire ça dans les titres de la presse française. Alors certes, la Thaïlande a de magnifiques plages, mais la Thaïlande est aujourd'hui sous la coupe de la junte et sous une monarchie autoritaire, ne l'oublions pas. Et donc c'est les funérailles de ce roi Bhumibol Adulyadej, de son prénom et de son nom de naissance, 88 ans, il me semble, mort l'année dernière en octobre 2016.
Donc ah oui, parce qu'il y a eu un an
de deuil.
Voilà, un an de deuil.
Une foule, on parle de 200 000 à 300 000 personnes massées le long de la procession funéraire, des personnes agenouillées, la plupart en pleurs. Les magasins étaient fermés cette journée, c'était un jour férié. Le quartier historique de Bangkok était vidé de ses touristes puisqu'il fallait, autour du site de la crémation, avoir des accréditations pour pouvoir s'approcher. Donc, une ville, une capitale, Bangkok, complètement fermée et dédiée à ces funérailles royales. Alors, je vous rappelle qu'il faut s'agenouiller, voire carrément se mettre à plat ventre, puisqu'il ne fallait jamais être plus haut que le roi. En Thaïlande, le roi avait le statut de demi-dieu, on va dire ça comme ça. Il fallait même reculer à genoux, et donc aujourd'hui tout le monde s'est plié à cette tradition. Alors la cérémonie a officiellement débuté avec l'arrivée du fils, qu'on appelle maintenant Ramadis, de son nom, alors vous m'excusez à chaque fois pour les prononciations s'il vous plaît, Mavariralongkorn, qui est donc descendu en uniforme militaire rouge. Il est descendu de sa Rolls-Royce. Il faut savoir qu'il y avait un millier de soldats en costume traditionnel, tout un tas de personnes avec des couleurs à chaque fois différentes, le rouge, le blanc, et puis on avait le peuple, lui, en noir, et exclusivement en noir. Nous reviendrons sur cette couleur. L'idée, c'était donc d'aller du palais au crématorium, soit à peu près 3 km, et donc ça a pris des plombes. 5 heures, a priori, c'est à peu près le temps qui a été calculé. Au centre de ce cortège, un palanquin doré, porté par plusieurs dizaines d'hommes, avec des costumes orange, et donc l'urne funéraire, hein, qu'elle va finir ce roi défunt. Il y avait aussi la princesse, et accompagnée du fils du roi qu'on ne voit jamais puisqu'il vit en Allemagne, il a une dizaine d'années. Alors l'idée, c'était d'aller donc rejoindre le site de la crémation. C'est le nouveau roi, le fils du roi décédé, qui a dû allumer le bûcher. Alors c'est un bûcher entouré de 500 représentations d'animaux ou de créatures de la mythologie bouddhiste, donc des sculptures, des choses ciselées, c'est très très beau. Au sommet de ce bûcher, les statues des chiens préférés du roi décédé. Et donc on parle des meilleurs artisans, hein, qui sont venus pour travailler pendant des mois et des mois sur ces crématoriums, sur ce bûcher. Il faut savoir qu'il y a eu une trentaine de représentants d'États étrangers, alors essentiellement des monarchies. On trouvait les monarchies des Pays-Bas, d'Espagne, de Belgique, évidemment le prince Andrew de la couronne britannique, le Japon était aussi présent. Et puis l'Église catholique romaine avait appelé à rendre hommage. Elle a envoyé Monsieur Di Quattro, dit Monseigneur, qui était là pour représenter le Saint-Siège et le pape François. L'Église catholique avait appelé à ce que partout en Thaïlande, les catholiques déposent des fleurs de santal dans ce qui était les répliques des crématoriums, puisque évidemment, à la capitale, il y avait la grande cérémonie, mais partout en Thaïlande, le peuple a été amené aussi, évidemment, suivre cette cérémonie avec des reproductions, des répliques un peu de partout. Donc l'idée quand même pour l'Église catholique, c'est de surtout pas faire de vagues dans ce pays très autoritaire, de montrer à la monarchie et à la junte que elle suit les préceptes mis en place, et que surtout elle s'efface et qu'elle est d'accord, hein, il faut être bien clair. Alors on va se souvenir que ce roi de Thaïlande, ça faisait 70 ans qu'il était là, hein, un beau règne quand même, je vous le rappelle, une loi de lèse-majesté extrêmement répressive en Thaïlande, et que c'est un peu comme la Corée du Nord. Oui, je suis désolée pour ce parallèle, mais on voyait ces portraits de partout, dans les lieux publics, mais aussi dans les boutiques, dans les maisons, hein, un petit peu de partout. C'était la grande habitude. Et puis, il y a des petites choses rigolotes, comme la fête des pères, vous savez quand c'est ? Ben, c'était le jour de son anniversaire. Et oui, c'est ça le culte de la personnalité. Par contre, on ne sait pas bien ce qui se passait derrière, hein, au niveau du palais. On pense, d'après les estimations, que c'est la monarchie la plus riche du monde. J'ai pas de chiffres à vous donner, ça se compte évidemment en millions.
Dans un pays qui est loin d'être le plus riche du monde.
Oui, mais
ça veut dire qu'il ponctionne beaucoup sur la population.
C'est ça. Et puis, il faut se souvenir qu'il a passé sa jeunesse en Suisse. Donc, c'est aussi voilà, et que le fils aujourd'hui qui est devenu roi, Ramadis, vit en Allemagne. C'est-à-dire qu'avant qu'il accède au pouvoir, a très très peu été en Thaïlande. Aujourd'hui, a priori, il fait un peu des allers-retours, mais on ne sait pas bien exactement comment tout ça se passe. Ce qui est sûr, c'est que ce roi défunt a bâti son image comme étant un pacificateur, un protecteur pour les Thaïlandais. Il s'est servi des groupes communistes en Thaïlande pour dire c'est eux les méchants et moi je suis là pour unifier le pays. Il s'est beaucoup servi d'un pays, c'est les États-Unis d'Amérique, qui se sont aussi largement, le pays s'est bien servi aussi de cette monarchie, puisqu'il faut se souvenir que quand il y a eu la guerre du Vietnam, la Thaïlande ça a été la base arrière militaire organisationnelle des États-Unis d'Amérique. Évidemment, ce roi a trouvé un avantage à tout ça et les États-Unis d'Amérique ont donc pu s'installer. Il faut aussi se souvenir que sous son règne, il y a eu 19 coups d'État et putsch, quand même, ou tentative de putsch. Donc, il a vécu quand même toute une histoire de la Thaïlande. Moi, j'ai retrouvé cette affaire qui avait été filmée par les caméras de télévision, où en 92, il y a eu un soulèvement populaire et à ses pieds, il y avait les deux ennemis qui étaient agenouillés, qui regardaient par terre et lui les exhortait comme ça, avec son corps et de tout son corps, à faire la paix. C'est un truc absolument incroyable.
À chaque fois qu'il y a des putsch, il a pas le pouvoir direct du coup, mais les putsch passent à côté de lui, il les regarde.
Et oui, parce qu'il faut se souvenir qu'aujourd'hui, donc il y a un nouveau chef militaire, c'est le général Prayut Chan-o-Cha, qui était en bonne place dans le cortège funéraire. Il est là depuis le coup d'État de mai 2014 et il avait finalement bien pactisé. Alors ce roi aujourd'hui mort était largement déjà malade en 2014. Donc l'agent a largement pu s'installer. Alors, on se demande un petit peu, vous allez me dire, mais oui, mais c'est comme en Corée du Nord, tu as fait Delphine tout à l'heure un parallèle. Est-ce que les gens pleurent vraiment? Est-ce qu'ils sont vraiment agenouillés pour de vrai?
Alors déjà, ils sont obligés de le faire.
Alors, le problème, c'est qu'on n'en sait strictement rien. C'est le culte de la monarchie, dans plein d'endroits. On ne sait pas pourquoi les gens aiment leur roi, leur reine, leur prince et leur princesse. Et puis, il y a cette loi de lèse-majesté. Donc, de toute façon, il y a une auto-censure. Personne ne parle, personne ne dit rien. Donc, on n'a aucune idée de savoir si vraiment les gens aiment ou pas ce roi. Ce qui a l'air d'être sûr, c'est que par contre, il y a quand même eu un culte de la personnalité suffisamment important pour qu'il y ait plusieurs générations qui étaient quand même fans de ce roi. Reste que la junte est aux manettes et donc on se retrouve avec un nouveau roi. Alors oui, je voulais vous donner le coût. On parle de 76 millions d'euros pour ces funérailles. Pour le site de crémation, je sais pas si je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai pas dit, il y avait 9 tours. Le site de crémation qui va donc brûler, qui a donc brûlé 25 millions d'euros pour cette chose. Donc il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé même par la junte, c'est-à-dire pour renvoyer aussi une image positive à la population. Le nouveau roi, il a été intronisé en décembre 2016, il a 65 ans. Et puis personne ne savait exactement ce qu'il allait faire. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il a fait amender la constitution, ce qui lui donne plus de pouvoir, il a plus de prérogatives, donc il ne s'est pas gêné. Et comme je vous le disais, c'est une monarchie la plus riche du monde, donc je pense que l'attrait de l'argent, ça aide à prendre le pouvoir. Par contre, on ne sait pas bien exactement où est-ce qu'il vit, comment il vit. En tout cas, il a une maison en Allemagne dans un village près de Munich qui a été estimée à 12 millions de dollars, donc il n'a pas l'air, ou d'euros, excusez-moi, 12 millions d'euros. Il est aussi connu pour avoir eu une petite vie un peu scandaleuse, en tout cas pour un monarque, puisqu'il a été photographié parfois avec certaines conquêtes. Il a été marié 3 fois, divorcé 3 fois. Bon, ça, il a le droit. Mais c'est pas très bien vu pour un monarque. Et puis, il y a eu des histoires avec les diplomates américains. Vous savez, qui écrivent des navettes. Et parfois, ces navettes, on est au courant. Donc, il y a eu l'histoire avec son chien, Foufou, qu'il avait élevé au rang de maréchal. Donc, vous voyez, il est un petit peu...
Oh, il est pas loin de la Corée du Nord, des fois.
Ah, c'est pour ça que je me suis permis de faire quelques parallèles, quand même. Et puis, donc voilà, il avait un petit peu des habitudes qui n'étaient pas très liées à la royauté. Ça faisait pas très chouette. Mais voilà, maintenant est-il qu'il c'est lui le chef sur ce trône. Il a l'air d'être très très autoritaire. Il a fait le ménage dans l'équipe de son père. Il s'est débarrassé de tous ceux et toutes celles qui pouvaient le gêner. À un moment, on avait pu penser qu'il allait refuser cette place puisque sa sœur aurait pu prendre la place. Et puis finalement, après quelques jours de considération, il s'est bien installé. Encore, comme je le disais tout à l'heure, j'y reviens, mais peut-être que l'argent aide aussi à s'installer sur le trône. Et puis je vais terminer avec finalement ce qui nous intéresse aussi dans l'histoire. Je vous le disais que tout le monde devait normalement être en noir. Je vous disais qu'il y a un crime de lèse-majesté, une loi très très forte, c'est l'article 112 qui a puni déjà des tas de gens. Et on a eu un activiste qui s'appelle Ekache Hong Kwang Wang qui, d'après le rapport de l'ONG Thai Lawyers for Human Rights et d'après son avocat, a été mis en arrêt Alors on lui allait, d'après ce qu'on en sait, laisser le choix entre aller dans un centre militaire, être arrêté, ce qui est pas drôle, hein, en Thaïlande, c'est la junte, ou être délocalisé dans l'ouest, dans la Thaïlande. A priori, il a été délocalisé, il est resté coincé jusqu'à la fin des funérailles dans un hôtel, sous bonne garde des militaires. Il n'a pas été mis en examen. Donc c'est vraiment se débarrasser de ceux et de celles qui gênent, c'est-à-dire les opposants. Alors lui, il était proche de l'ex-premier ministre Shinawatra, qui avait connu un coup d'État, hein, un premier coup d'État en 2016, et il avait déclaré sur un réseau social d'une multinationale qu'il allait porter cet activiste qui mettrait une chemise rouge. C'était la couleur de cette opposition et du mouvement de cet ex-premier ministre. Évidemment, c'était un crime de déclarer ça. Il a donc été embarqué, éloigné pour éviter qu'il fasse quelque chose qui pourrait gêner cette grande journée de funérailles.
Alors, on va revenir en Tchéquie. Les semaines dernières, je vous avais un peu présenté l'état des candidats pour cette élection qui avait lieu vendredi et samedi dernier. Et on a la victoire qui correspond à peu près à ce que disaient les sondages, hein, puisque le parti ANO, emmené par Andrej Babis, est donc arrivé en tête des élections. C'est un parti populiste qui a un discours contre l'euro, mais pro-Europe, pro-business, ultra-libéral, ultra-raciste et anti-migrant, hein, comme la majorité d'ailleurs des participants à cette élection. Il est arrivé en tête, a priori, avec un peu moins de 30%, ce qui est beaucoup, puisque dans ceux qui arrivent derrière, alors il y en a 8 en tout qui sont qualifiés pour rentrer au Parlement, c'est la Chambre basse, elle s'appelle, puisqu'il fallait plus de 5% des voix pour y rentrer. Dans ces 8 participants, on peut dire qu'il y en a 6 voire 7 qui ont tenu des propos xénophobes, racistes, anti-migrants pendant la campagne. Le seul parti qui a l'air un peu moins pire que les autres, c'est le parti pirate, qui a eu quand même 10,3% des voix. Sinon, on peut noter les libéraux du Parti démocratique civique ont eu 11%. Le SPD, qui est le parti le plus à l'extrême droite, hein, plus que le parti d'Anneau, ils ont eu 10,5%. Les sociodémocrates, qui eux aussi sont racistes, ça n'empêche pas, hein, ont eu 7,3%, donc c'est leur pire score depuis 1993, c'est-à-dire l'apparition de la Tchécoslovaquie telle qu'on la connaît, avec un semblant de démocratie, enfin avec de la démocratie tout court d'ailleurs. Et les chrétiens démocrates, la KDU-CSL, eux, ils ont eu 6% des voix. Donc voilà, il va y avoir une coalition. On le sait, puisque le président tchèque Miloš Zeman s'est exprimé pour parler de cette élection. Et il a fait un truc assez incroyable, c'est qu'il est arrivé avec une Kalachnikov en bois, donc une fausse Kalachnikov sur lequel c'était écrit « Pour les journalistes », la Kalachnikov. Alors, c'est pas la première fois que ce président tchèque attaque les médias. On sait qu'il est très anti-médias. Et bizarrement, il est pote avec Andrej Babis, qui est un gros propriétaire de médias. Mais bon, il aime que les médias de son pote, a priori pas les autres. Et il y a pas longtemps, dans le puisque c'était... C'était je sais pas, il y a 15 jours, 3 semaines, au Parlement européen, il est arrivé dans un couloir, il y avait un journaliste, enfin un caméraman, il a dit au service d'ordre qu'il fallait l'en débarrasser, sinon il allait le tuer. Et on s'est dit, mais il est allé trop loin, il y a une interview de son porte-parole, qui dit, le caméraman se trouvait sur son chemin. La remarque était donc tout à fait justifiée, puisqu'il faut pas qu'il y ait quelqu'un devant le chemin de Monsieur Miloš Zeman. Donc la Tchéquie, c'est mal parti aussi, quand même. On se rappelle aussi qu'en marge d'une rencontre avec, finalement, quelqu'un qui lui ressemble un peu, Vladimir Poutine, c'était en mai dernier à Pékin, il avait lâché, texto, qu'il fallait liquider des journalistes parce qu'ils étaient trop nombreux. C'est pas mal quand même. Voilà. Donc cette plaisanterie d'arriver avec une Kalachnikov en bois avec écrit pour les journalistes, c'est pas vraiment une plaisanterie, hein, c'est vraiment de la menace. Et c'est à ce moment-là qu'il a annoncé d'ailleurs qu'il nommait Andrej Babis, son pote, et vainqueur largement des élections du week-end dernier, pour essayer de monter une coalition, parce qu'effectivement avec un peu moins de 30%, il n'a pas la majorité. Donc voilà, c'est pas des très bonnes nouvelles. Comme je l'avais dit la semaine dernière, presque tous les partis avaient des discours anti-migrants, racistes et xénophobes. Du coup, il y avait peu de chances qu'il y ait un parti vraiment intéressant, pas raciste et pas xénophobe au pouvoir, bah c'est le cas. La liberté de la presse en a pas mal pris un coup aussi, notamment avec Andrej Babis, hein, qui dans ses propres journaux ne respecte pas la parole des journalistes, s'incruste, voilà, il prend un peu le pouvoir, c'est ses journaux, mais normalement les journalistes ont quand même une certaine liberté, bah avec lui pas vraiment. Donc voilà, la liberté de la presse a pas mal reculé en Tchéquie, et vraisemblablement, le racisme a bien progressé en Tchéquie.
Alors rapidement, je vais y revenir au cas où vous n'auriez pas été au courant de ce qui s'est passé vendredi soir à Chambéry. C'était la soirée de rentrée de la Fédération anarchiste de Savoie. C'était dans un bar chez JJ, soirée musicale et familiale. Et là, des néo-nazis de Edelweiss, Pays de Savoie, ça veut dire tout dire, et de Civitas ont débarqué et évidemment ils ont voulu frapper. Heureusement, il y a eu suffisamment de gens pour que cette attaque soit repoussé.
Il y a c'est une vraie attaque. Hein. Ils sont pas venus avec une banderole en disant vous êtes des gauchos, on n'aime pas les gauchos.
Et je vous le disais, c'était familial, c'est-à-dire qu'il y avait des gosses qui étaient là. C'était vraiment quand même un rendez-vous tout ce qui est plus sympathique. Donc il y a des gens qui sont allés à l'hôpital. Il y a un militant rouge et noir qui a une ITT, hein, une interruption temporaire de travail. Heureusement, tout le monde va à peu près bien. Tout ça juste pour vous dire que si vous saviez pas quoi faire samedi 28 octobre à 14h, il y a un rendez-vous place de la mairie à Chambéry, avec un appel à manifestation contre le fascisme. On retrouve un peu tout le monde hein, sur place, attaque la CNT, Savoie, la FSU, le NPA, le PCF, la CGT, Solidaire. Évidemment, c'est un mouvement collectif et massif contre le fascisme.
Ouais, on sait qu'ils sont pas mal implantés en Savoie. On a même des tags hein, en ce moment nationalistes savoyards sur les pentes de la Croix-Rousse.
Il y avait déjà eu il y a quelques années, ça revient un petit peu. Ouais.
Voilà. On va rester avec l'extrême droite et on va reparler de deux choses qui se passent en ce moment à Nice, et c'est une nouvelle manière d'attaquer un petit peu l'extrême droite. On connaît les actions comme il y a eu à Chambéry, c'est-à-dire qu'on arrive avec des barres de fer et on tape sur tout le monde. Et ben, il y a d'autres groupes d'extrême droite, notamment des identitaires, qui utilisent la justice pour attaquer des associations. C'est le cas à Nice, sur des gens qui soutiennent, qui aident les réfugiés qui se retrouvent dans la région. Alors par exemple, l'association Roya Citoyenne, qui a été un petit peu célèbre hein, ces derniers temps, puisque le personnage le plus célèbre de cette association a été condamné par la justice parce qu'il aidait les migrants. Donc je vous rappelle, Roya, c'est la vallée qui est entre la France et l'Italie. C'est une vallée qui est entre la France et l'Italie. Et là, c'est Olivier Bettati, qui est un élu Front National, qui s'est accoquiné avec une asso, alors il a peut-être même monté lui-même, qui s'appelle Défendre la Roya, qui a été créée cet été. Donc les deux, ils ont déposé plainte contre l'association Roya Citoyenne, et bien sûr Cédric Héroux, qui a déjà eu pas mal d'affaires avec la justice, en demandant la disparition de l'association, la dissolution pour utiliser le terme officiel. Alors, il y a peu de chances que ça aboutisse puisque les dissolutions d'associations se font non pas sur l'avis ou la demande de quelqu'un d'extérieur, mais se font sur les propositions du procureur, c'est-à-dire de l'État. Et Cédric Héroux a été condamné il n'y a pas bien longtemps pour son aide aux migrants, et à aucun moment le parquet n'a demandé la dissolution de l'association. Donc c'est pas ces petits militants fachos, hein, parce qu'il y a cet élu du Front National, il a accompagné aussi d'identitaires hein, qui avait déployé le jour de l'audience le 13 octobre une belle banderole où c'était écrit le nom de l'association Défendre la Roya avec un beau drapeau, un beau fond bleu blanc rouge. Il y a quand même peu de chances qu'ils arrivent à leur but, mais voilà, c'est une nouvelle manière d'agir en allant devant la justice pour mettre la pression un petit peu sur tout le monde. Et il y a un deuxième exemple, toujours dans cette région, belle région de Nice, c'est le cinéaste Yanis Yoluntas et Jean-Jacques Rue, qui est lui un journaliste, qui a notamment participe à Ciné Mensuel. Eux, ils sont convoqués un peu plus tard, ce sera le 18 décembre devant le tribunal correctionnel, et ils doivent répondre d'une plainte pour, je cite, injure publique et diffamation, donc qui a été déposée par des militants identitaires qui appartiennent à l'opération Défendre Europe. Alors justement, je vais vous rappeler, nous on a suivi un peu cet été, c'était très drôle, on s'est bien moqué de ces imbéciles de fachos. C'est donc un groupe d'identitaires européens, donc il y avait des Allemands, des Italiens, des Français, et sûrement d'autres nationalités, qui ont affrété un bateau en Méditerranée pour empêcher les ONG de sauver les gens, les migrants qui se retrouvaient dans des coquilles de noix et qui se retrouvaient à la mer et qui, pour la plupart, mouraient noyés. Donc les ONG mettent des bateaux pour secourir ces futurs réfugiés, qui ne sont pas encore réfugiés d'ailleurs, ces futurs réfugiés. Et les fachos avaient affrété ce bateau, qui s'appelle Defend Europe, pour essayer de bloquer l'action des ONG. Alors, le bateau s'appelle le Cestar. Bon, il a eu plein de soucis, ce bateau, et on s'est bien marré. Il a été bloqué à Malte, à Chypre. Après, il a eu des avaries. Il a fallu qu'il aille, qu'il demande à aller dans les ports, dans un port en Sicile ou dans des ports tunisiens. Tout le monde a refusé de le dépanner en disant, bah non, vous crevez, vous êtes des fachos, vous aimez pas les autres, mais on va pas vous aimer, donc pas vous aider. Ils ont même allé jusqu'au bout où le bateau est tombé en panne, et là, ils ont été sauvés parce qu'il y a cette règle de la mer qui dit qu'on laisse pas un bateau, même avec les pires fachos, qui allait faire mourir des gens, hein, parce qu'en empêchant les ONG d'agir, ils tuent, ils font mourir des personnes, sont des assassins, hein, ces gens-là. Bon, ils ont quand même été secourus, et du coup, Yanis Yoluntas et Jean-Jacques Rue, ils avaient monté un blog où ils tenaient au courant de toutes les pauvres histoires pourries que vivaient ces identitaires, ces fachos, durant leur campagne de l'été dernier avec leur bateau pourri. Et ça a pas plu, donc ils ont déposé plainte pour... parce qu'ils s'estiment attaqués, lésés, diffamés, hein, parce qu'on s'est moqué d'eux. Alors, a priori, quand on est identitaire, on n'a pas d'humour non plus. Et voilà, donc ils sont poursuivis, ces deux militants, parce que ce sont des militants antiracistes et antifascistes, bien évidemment. Et ils comparaîtront devant le tribunal correctionnel le 18 décembre. Je suis pas sûr qu'ils risquent grand chose non plus, parce que le blog se moquait sans insulte, d'ailleurs sans nommer des personnes, enfin si, des fois, mais voilà, se moquait des actions donc qu'ont pu faire les fachos. On rappelle quand même, ces fachos, par leurs actions, ils avaient volonté de faire mourir des gens. Donc c'est pas un acte anodin, et finalement ceux qui ont empêché, qui ont pas aidé Defend Europe et le Cestar, eux ils étaient plutôt du côté de sauver des êtres humains, parce que on s'en fout qu'ils soient migrants pas migrants, il y avait ceux qui voulaient faire mourir des êtres humains et ceux qui voulaient les sauver. Donc il y a des chances quand même que la justice elle suive pas trop les identitaires. Mais ce qu'on note quand même, c'est en dehors de cette nouvelle forme d'action de ces identitaires. Alors on connaît l'histoire de l'extrême droite qui attaque en justice. On se rappelle des milliers, enfin peut-être pas des milliers, mais des dizaines de procès qu'a subi Charlie Hebdo quand chaque fois qu'il critiquait et qu'il faisait un dessin sur un religieux chrétien, il chopait l'extrême droite religieuse chrétienne en procès. Il gagnait à chaque fois. On n'avait pas l'habitude que les identitaires aillent en procès aussi. Ben voilà, c'est parti. Alors faut savoir que dans cette région, il y a une grosse alliance, hein, entre le Front National porté par Marion Maréchal Le Pen. C'est elle qui avait débauché Olivier Bettati, là, qui a déposé plainte, qui vient de l'UMP, hein, mais qui est maintenant au Front National. Et voilà, ils essayent de faire une union des droites avec les néo-nazis, les identitaires et toute cette bande-là. C'est voilà, c'est ça qu'on voit là-bas, c'est ça qu'on voit dans d'autres régions, bien évidemment. Ce qui s'est passé à Chambéry, hein, il y avait différents groupes d'extrême droite. Ce qu'on voit à Lyon, c'est qu'il y a différents groupes d'extrême droite et qui sont main dans la main entre eux avec la vitrine Front National et puis tous les autres qui font les coups. Que ça soit l'Action française ou les identitaires. Donc voilà, c'était pour vous parler de ces actions en justice, en espérant qu'elles n'aboutissent pas, ce qui devrait être le cas.
Alors maintenant, on va vous demander de bien vouloir éloigner les enfants, puisque le site dont je vais vous parler ne devrait pas les concerner. Enfin, ça c'est mon avis, puisque je vais vous parler du tout nouveau site de la police nationale qui s'appelle policejunior.fr. C'est un site, excusez-moi, qui a été lancé sur Internet ce jeudi à l'occasion du salon Kid Expo à Paris. Alors, ça a été fait parce qu'il paraît que il y avait un public demandeur d'informations, donc il fallait répondre aux demandes des plus jeunes et en créant un espace dédié, je cite. Alors c'est un site qui est réalisé en interne par le service d'information et de communication de la police nationale, ce qu'on appelle le CICOP. Je ne sais pas combien cette chose coûte, hein, puisque c'est fait en interne, je n'ai pas d'informations sur ça. Alors moi je me suis baladée. Alors vous pouvez aussi aller vous balader. Sachez que déjà il va falloir débloquer vos cookies. Ouais, ça, vous êtes obligé, sinon vous avez une page toute grise, et donc on est obligé, hein. Ça, il y a pas moyen, j'y ai pris un peu 10 minutes, j'y ai bien réfléchi, et puis je l'ai fait. C'est quelque chose que j'aime pas bien faire. Alors on se retrouve avec deux personnages, Emma et Lucas, deux policiers, qui nous proposent d'abord de découvrir l'univers de la police nationale en nous amusant. Alors d'abord, il faut bien découvrir les différents métiers de la police nationale, et là, donc, on a la PJ, le RAID, les CRS, la BAC, la PAF, les brigades équestres, ceux avec les chiens, la police technique et scientifique, et puis il y a des petites fiches, très simplettes, hein, toutes simples, hein, donc c'est que un peu du dessin hein, qui avec des petits personnages. Ça est très fictionnel. Des petites fiches explicatives pour chacun de ces petits services de la police nationale. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, maintenant que tu as découvert les métiers de la police, mets-toi dans la peau des experts. Et là, il y a un jeu des 7 différences, donc avec des scènes de crime. Hein, et donc, il faut trouver les différences entre la partie droite et la partie gauche de votre écran. Des choses jusque-là assez simples. Et puis ensuite, on a une partie où Emma et Lucas répondent à tes questions et t'expliquent comment te protéger de certains dangers de la vie quotidienne. Alors, on nous parle très simplement de la violence, du racket, du harcèlement, des drogues et de l'emprise mentale. Alors, sur l'emprise mentale, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose à vous. Hein.
La religion.
Alors, je lis. Parfois, tu constates qu'un ou plusieurs de tes camarades ont changé certains de leur comportement ou de leur pensée, les amenant à utiliser la violence contre eux-mêmes ou contre les autres. Ce phénomène appelé emprise mentale est la prise du pouvoir sur les autres par des personnes mal intentionnées. La victime n'a plus son propre jugement, ne réfléchit plus tout seul et fait des choses qu'il n'a pas choisies.
C'est les satanistes aussi sont comme ça.
Ouais. Bon, là, on sent qu'il y a quand même un peu la recherche du terroriste. Je vous rappelle que c'est un site qui s'adresse aux 7-12 ans. Donc, ça vient un petit peu... comme ça.
Il y a des terroristes à 12 ans.
Je trouve. Je trouve que c'est un petit peu mal amené, hein, cette situation. Après, je connais pas. Il y a peut-être d'autres situations d'emprise mentale. Mais par rapport au discours sur la drogue, le harcèlement, le racket et la violence, voilà, je trouvais que c'était un petit peu décalé. Et puis ensuite, il y a une partie, le sais-tu? Les facs, c'est toujours important. Alors, le sais-tu? Que les policiers ont un code de déontologie. Ah bon? Moi, je savais pas.
Non, on l'a jamais vu, ouais.
Qu'il existe une police des polices. Ah bon? Elle sert à pas
si,
grand-chose.
Les boeufs carottes, attends.
Ouais, elle sert à pas grand-chose.
Une fois tous les 40 ans, ils arrêtent un flic pourri.
Voilà, on en discutait un petit peu au début. Bon, c'était un gendarme, tu diras, mais voilà.
Ouais,
que tes parents peuvent faire protéger leur appartement ou maison. Alors là aussi, on se demande ce que ça vient faire là. Vous savez, vous avez un service
le truc,
pendant les vacances qui peut tourner, vous dites que vous n'êtes pas là, et du coup, on vérifie si tout se passe bien dans votre maison. Bon, on se demande un peu, parce qu'il n'y a que ça, hein, dans le sais-tu, il y a ces trois choses, donc on se demande ce que ça vient faire là. Et alors moi, quand même, la partie que j'ai préférée, c'est, j'ai terminé par une grosse critique à la fin, hein, qui m'a beaucoup embêté. Mais moi, la partie quand même qui m'a le plus éclaté, c'est que tu peux habiller ton policier. Donc tu cliques sur un truc et tu vas sur une page où Lucas, il est en slip bleu, blanc, rouge. Oui, parce que je savais pas que son policier de la police nationale, on leur fourguait le slip bleu, blanc, rouge. Et donc il faut l'habiller en fonction du service dans lequel il est, avec le bon uniforme.
C'est un jeu, du coup.
Ouais, c'est un jeu. Donc c'est un peu comme les poupées qu'on avait quand on était enfant, et on leur mettait des petits habits avec des petits clashs en carton à l'arrière du dos, du cou ou des jambes. Là, c'est la même idée. Donc tout ça, c'est numérique. Donc moi, j'ai choisi d'habiller un CRS. Je me suis dit, j'en vois plein. Je dois savoir faire. Alors, donc, t'as une sélection sur le côté. Alors d'abord, les pantalons, les hauts. Ensuite, le truc autour de la taille où il y a toutes les armes. Et puis, ce qui va ensuite sur la tête. Alors, je me suis dit, le CRS. Alors, j'ai choisi le casque. Bon, en fait, je m'y suis pris plusieurs fois parce qu'à chaque fois, je perdais quand même. Donc, je me suis dit, merde, j'en vois pas assez dans la rue. Comment ça se fait que j'arrive pas à habiller un CRS? Du coup, je me suis remise beaucoup en question en me disant, mince, il y a un gros problème. J'ai failli sortir dans
la
rue.
Tu les regardes peut-être pas assez.
Je sais pas. Ou alors peut-être qu'entre un CRS et un gars du RAID, je les mélange. Je me suis dit qu'en fait c'était peut-être un peu ça mon problème, c'est que j'avais peut-être des problèmes d'uniforme. Donc j'ai beaucoup joué à ça. J'ai trouvé ça aussi curieux. Quand même, non? Vous trouvez pas ça curieux de vous pour apprendre à vos enfants comment bien reconnaître les différents services de la police nationale? On les habille avec l'uniforme et même avec le truc autour de la taille dans lequel il y a la matraque, hein, le flingue. C'est quand même très très mignon.
Le taser, tout ça là.
Alors moi quand même, ce qui m'a embêté un petit peu, je dois vous le dire, au-delà de tout ça, vous vous doutez bien.
C'est quand même une belle propagande.
Tout ce que je viens de vous raconter, c'est une belle propagande. C'est que les personnages de dessins animés, ils sont tous très jeunes, très minces, très beaux et très blancs.
Ah bah. Ils allaient pas mettre un gros noir. Tu vois? Ça serait pas passé. Ils allaient pas mettre
je suis bien embêté quand même.
Une femme. Ils ont mis des femmes quand même. Tu peux noter. Ils sont racistes. Bon, donc ils ont pas mis de gens de couleur, ils aiment pas les gros, ils ont pas mis de gros, ils aiment pas les petits parce qu'ils après il y a des tailles aussi pour être. Mais par contre, ils ont mis une femme.
Parce
qu'ils sont égalitaires. Il y a un homme et une femme.
Le raid, ils sont cagoulés, hein, d'accord, sur la présentation de l'affiche. Bon, on voit quand même qu'ils ont les mains blanches. Moi, je suis un peu embêtée quand même de cette démonstration qui voudrait dire à tous les enfants de France que, regardez, la police, elle est gentille avec vous. Comment on peut se reconnaître quand on est noir, quand on est arabe, enfin, je veux dire, voilà, là, il y a pour moi un problème. Et encore une fois, c'est la police, et la police, elle se considère blanche, et je suis pas très étonnée de retrouver que des blancs sur ce site internet, même s'il s'agit de petits personnages dessinés. Voilà, je vous allais dire que je suis pointilleuse, emmerdeuse, ouais.
Non, ouais, mais après, le but, c'est effectivement les petites, les jeunes têtes blanches, là, tête blonde, on leur met de la propagande parce qu'ils en ont marre aussi, les flics, d'être insultés parce que la jeunesse aime pas la police. Bon, c'est
la jeunesse risque de pas bien se reconnaître dans cette police nationale, excuse-moi.
Ils font de la propagande pour essayer de rameuter comme ça de l'amitié.
Enfin voilà, c'était ma rubrique conso de la semaine.
Donc policejunior.fr, hein, site à éviter. Donc on va poursuivre en parlant de préservatif, enfin de contraception très exactement, avec un petit mot sur la Tunisie, qui est un truc ridiculement pas drôle, puisque on sait que la Tunisie a des gros soucis financiers depuis 2011, depuis qu'il y a eu les révoltes du printemps arabe, qui sont partis en Tunisie. C'est le seul pays qui s'en sort moins mal que les autres, on va dire, ou qui n'ont pas rebasculé dans une totale dictature. Mais par contre, ils vivaient beaucoup du tourisme, le tourisme s'est effondré, donc ils ont des gros problèmes financiers. Et qu'est-ce qu'a dit la Banque Centrale de Tunisie ? Qu'il fallait mettre frein à l'importation des produits pas utiles, pas essentiels. Ils ont listé 500 produits. Alors dedans, on a les fromages raffinés, les produits de beauté. Bon, jusque-là, on se dit ok. Les gants en latex qui sont utilisés par les chirurgiens, on se dit putain merde, ils font plus d'opérations. Et les préservatifs. C'est plus utile. Alors on se dit peut-être qu'ils ont, il faut pas en importer parce qu'ils en produisent localement. Et non, il y a un médecin gynécologue qui explique un peu les trucs. Sami Ben Sassi, il dit pas du tout. Il y a aucune production de préservatifs en Tunisie. Il y a très peu déjà d'utilisation, trop peu d'utilisation de préservatifs. Et là, ça va devenir la catastrophe. Parce que la conséquence directe de l'arrêt de l'importation des préservatifs, c'est que ceux qui restent, ils vont devenir hors de prix. On n'en trouve que dans les pharmacies, pas ailleurs. Enfin, c'est compliqué un petit peu en Tunisie. Et lui, il dit, on a des gros problèmes en Tunisie sur la sexualité, notamment sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Et le gouvernement décide, pour des raisons d'économie, pour essayer d'équilibrer la balance, le déficit commercial, la balance budgétaire, de ne plus faire importer de préservatifs. Alors c'est pas une obligation, c'est une incitation, mais c'est quand même pas bon. Une bonne idée, à mon avis, portée par le chef du gouvernement, qui est Youssef Chaeb, d'interdire l'importation de préservatifs qui sont, et c'est des assos qui militent pour aider les malades du sida ou les malades atteints de maladies sexuellement transmissibles, qui déjà, eux, se battent pour essayer de faire que les gens utilisent du préservatif. Ça va à l'encontre de tout ça. Et il y a aussi une asso qui s'occupe des femmes qui subissent... qui ont des IVG. Il faut savoir qu'il y a 16 000 IVG clandestines en Tunisie. Alors, qui dit IVG clandestine dit conditions de sécurité souvent limites, voire donc des femmes qui meurent par ces IVG clandestines. Et l'asso explique, c'est l'Office national de la famille d'ailleurs, qui avait donné le chiffre. Et les assos disent, il faut développer le port du préservatif parce que une grosse partie, voire la majorité de ces IVG n'existerait pas si les couples utilisaient du préservatif, puisque ça met pas enceinte la femme quand on utilise le préservatif. Donc voilà, il y a deux grosses raisons qui font que cette décision de la Banque Centrale de Tunisie semble complètement déplacée dans les circonstances, on va dire, hygiéniques et de santé des Tunisiens. Et puis un deuxième mot sur la contraception. Un truc un peu drôle, ça nous vient des États-Unis d'Amérique. Alors, faut savoir qu'aux États-Unis d'Amérique, les conditions d'accès à l'avortement et à la contraception ont pris des grosses claques ces dernières années, et encore plus depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Donc, il y a des gros soucis. Alors, entre les cliniques qui sont obligées de fermer ou qui peuvent plus faire de pratiquer d'avortement. Aujourd'hui, il y a des Américaines qui sont obligées de traverser plusieurs états pour aller se faire avorter, hein, c'est vraiment compliqué. Ça, les médecins qui utilisent cette fameuse clause de conscience religieuse en disant non, je peux pas, c'est contre ma conscience. Donc voilà, et ben le droit des femmes, parce que c'est seulement les femmes qui sont concernées par ces droits-là, même si la contraception ça concerne tout le monde, ont beaucoup reculé. Alors faut savoir qu'aux États-Unis, 62 millions de femmes bénéficiaient aussi d'un accès gratuit à la contraception. Hein, ça datait notamment d'une remise à niveau de Barack Obama. Et là, tout va être supprimé le 5 décembre prochain, ces aides, suite aux décisions de Donald Trump. Et donc, il y a une campagne qui est lancée par le Women Equality Center et qui demande aux femmes d'envoyer leurs factures sur le site internet de la campagne et qui enverra à la Maison Blanche les factures du coût de la contraception pour essayer d'inonder un petit peu la Maison Blanche de ce problème du coût de la contraception. Hein, ça coûte très très cher aux États-Unis, c'est $600 en moyenne pour les femmes par an. Et donc, c'est 62 millions de femmes qui avaient accès à la contraception gratuitement, c'était vraiment un truc très important. Donc voilà, ça bouge un peu du côté des Américaines pour essayer de récupérer un bout d'aide, un bout de droit d'avoir accès à la contraception libre et gratuite. Alors c'est compliqué, mais voilà, on les soutient bien évidemment. Bon courage.
Nous allons parler de Monsieur Macron, puisque Monsieur Macron est en déplacement. Vous avez peut-être appris que Monsieur Macron est en Guyane à partir de ce jeudi, et les polémiques se sont plutôt multipliées. Alors, ce déplacement a lieu à l'occasion du sommet des régions ultra-périphériques.
C'est les anciennes colonies, ou les colonies d'ailleurs.
Il y a 9 régions ultra-périphériques hein, dans l'Union européenne. Il y a les collectivités françaises, et puis il y a les îles Canaries pour l'Espagne, et deux régions portugaises, les Açores et Madère.
Voilà.
Très rapidement. Voilà.
Et pour la France, ça concerne les colonies ou les
anciennes colonies. La Guyane, la Guadeloupe, voilà. La Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Martin. Voilà, mais c'est pas des régions ultra-périphériques dont j'ai envie de vous parler, même si je pense qu'il y aurait moyen. Donc il est Monsieur Macron en Guyane pour ça. Alors c'est un peu fâché les maires de Guyane qui auraient bien aimé qu'il aille en Guyane pour la Guyane et pas pour autre chose. Hein. Alors donc ils avaient envoyé un courrier hier. Un courrier là il y a quelques jours qui a été rendu public hier, ce courrier envoyé au président de la République expliquant qu'il n'irait pas accueillir le chef de l'État lorsqu'il arriverait et qu'il n'irait pas au dîner républicain. Non, ça c'est une offense hein, de notre République puisque ils avaient pas de temps de rencontre avec Monsieur Macron et qu'ils étaient pas contents. Bon, on a appris en milieu de journée que finalement Monsieur Macron avait décidé de les voir vite fait avant le dîner républicain. En général, quand on dit vite fait, c'est que ça va être mal fait. Hein, ça c'est un peu mon avis personnel, mais bon. Voilà, ça c'était la position de Monsieur Macron pour l'instant, pour essayer de calmer le jeu. Donc Monsieur Macron était à Maripasoula, et puis ensuite il va se rendre au centre spatial à Kourou, et puis au commissariat de Cayenne. Ce qui lui est reproché, c'est que Monsieur Macron ne fait que survoler la Guyane, puisqu'il fait tout en hélicoptère. Et certains et certaines auraient bien aimé qu'il pose le pied pour essayer les routes toutes pourries de la Guyane, et pour voir combien il y a besoin d'argent pour rénover les routes.
Non mais il est pas dingue, on lui a dit que les routes étaient pourries.
Il est président, donc il va pas y aller. Alors ce qu'on sait aussi, parce que ça c'est Guyane Première qui a raconté tout plein d'histoires, c'est qu'il y a tout plein de travaux qui ont été faits là où il descend de l'hélicoptère, là où il met les pieds au sol. Donc il y a eu des rénovations, de la peinture, et qu'il y a même eu des panneaux de contreplaqué qui ont été posés à des endroits pour cacher la misère. C'est la France hein, quand même, ouais. Bravo. Merci à Guyane Première de nous avoir raconté tout ça, parce qu'on est un petit peu loin nous d'ici. Alors, il faut savoir qu'il y a évidemment tout plein de collectifs hein, sur place. Depuis le mouvement du printemps, les collectifs n'ont pas baissé leur vigilance. Et il y a le collectif Pour que la Guyane décolle qui réclame au président Macron le respect des accords de Guyane qui ont été signés et validés par, certes, le gouvernement précédent, hein, mais qui est sur la table depuis le mois d'avril. Il faut se souvenir que M. Macron, pendant sa campagne présidentielle, avait déclaré « Je respecterai les accords de Guyane et j'irai même plus loin ». Bon, ben, ils sont là. Les gens, pour lui rappeler qu'il va falloir les faire respecter et même aller plus loin. Alors, l'autre polémique, c'est celle qui accompagne les journalistes de notre hexagone qui se sont déplacés pour suivre monsieur le président juste jusqu'en Guyane, donc pour ce beau déplacement. Et ces journalistes ont reçu une notice du cabinet du président expliquant qu'il fallait pas boire l'eau du robinet, ni manger les glaçons, pas manger les légumes crus, pas de poisson, pas d'œufs et pas de viande pas assez cuite, pas de baignade en eau douce, même partielle ou de courte durée, pas de contact avec les rongeurs ou avec des animaux d'une manière générale, et il fallait visiter les risques de morsures, de maladies virales, et qu'il fallait aussi se protéger des moustiques puisque la Guyane est actuellement touchée par une épidémie de virus Zika. Sauf que ils boivent de l'eau.
Ah oui, localement, oui, il est en train de dire que la Guyane, c'est très dangereux, quoi.
Ouais, et puis que surtout que l'épidémie de virus Zika...
C'était il y a un moment déjà.
Elle est finie depuis un an. Ça, c'était octobre 2016. Donc, les fiches du cabinet de la République française ne sont a priori pas très à jour. Et donc, ça a évidemment amené beaucoup de critiques de la part des élus locaux et de la population locale, évidemment, qui parlent de méconnaissance, de discrédit et de mépris. Ben oui, voilà. Alors, l'Élysée a reconnu qu'il y avait une erreur et des imprécisions dans cette petite fiche, qu'elle est partie peut-être un peu vite, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas été relue, mais qu'en fait, il y a toujours, partout où il va le président, des fiches d'accompagnement pour expliquer ce qu'il faut manger, pas boire.
Alors là, je comprends, il va dans un pays étranger, où effectivement, les conditions sanitaires ne sont pas toujours très bonnes, on le comprend. Hein. Mais là, il va en France. Donc, si les conditions sanitaires ne sont pas très bonnes, bah, c'est de sa faute à lui. C'est de sa faute à l'État. Donc moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on donne ces recommandations comme on le donnerait dans un tout petit pays vraiment perdu, qui a aucun moyen.
Voilà. Et c'est surtout que l'Élysée a reconnu avoir modifié la fiche.
Ils l'ont relu quand même.
Oui, ben ça veut dire qu'ils ont bien reconnu leur bêtise. Donc c'est intéressant. Donc ça a été une des polémiques. Et puis là où monsieur Macron est très attendu, c'est sur cette affaire de Montagne d'Or, vous savez, cette gigantesque mine.
Oui, où il s'est déjà positionné qu'il était pour l'ouverture de cette mine d'or.
Et
une catastrophe environnementale.
Il y a un débat public qui doit débuter en mars 2018. Il y a des pétitions qui a déjà, 200 000 signatures, un truc comme ça. Là, il faut que j'ai regardé, je crois que c'était 190, je ne sais plus combien. Enfin oui, on va dire 200 000. Allez, on va arrondir. Donc, évidemment, les opposants redoutent des répercussions environnementales, alors que l'opérateur minier promet des milliers d'emplois. Comme toujours, on est sur ces deux ambivalences. Alors, le projet industriel, il est quand même situé entre deux réserves biologiques. Hein, l'air de rien, c'est tout simple. Donc, M. Macron, lui, il est pour, puisqu'il paraît qu'avec l'emploi, ça va être super. Donc, c'est Norgold et... donc, ça, c'est russe. Et la compagnie canadienne Columbus Gold qui se partage le projet minier là-dessus. Donc, ce groupe, ce consortium, je vais y arriver, attend les autorisations pour pouvoir démarrer. Le projet pourrait être lancé en 2019 pour une production à partir de 2022. Vous pouvez aller sur le site Montagne d'Or, c'est de la propagande, vous verrez, c'est absolument magnifique. Alors il y a un collectif qui s'appelle Hors de Question, avec un jeu de mots Hors, O-R de Question, qui regroupe une trentaine d'associations locales et des ONG internationales qui se battent contre ce projet minier. Il faut savoir que les autochtones sur place se sont opposés bien évidemment à ce projet qui va abîmer la forêt en Amazonie, puisque c'est au cœur, c'est carrément isolé. Hein. Et puis, il y a plein de critiques. Hein. Il va falloir tout creuser à la dynamique. Ça va être un trou énorme, hein, 2,5 km de long. Il va falloir faire venir de l'électricité, alors qu'il y a des endroits en Guyane où il n'y a pas d'électricité. Les populations se plaignent. On va aller donner de l'électricité et l'amener, tout saccagé pour l'exploitation minière. Le consortium parle de 85 tonnes d'or sur 12 ans, c'est-à-dire qu'ils vont payer plein d'impôts parce qu'en fait, c'est vachement bien, donc pour nous, la collectivité, parce qu'en fait, ils vont faire plein de profits. Sauf que l'or, ben, ça fluctue, hein, donc c'est gentil de nous faire des estimations sur 2022 alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis, il y a donc plusieurs organisations qui ont critiqué ces apports d'impôts à la collectivité en disant que la collectivité va donner 420 millions. En tout cas, c'est le coût qui est estimé de la participation de l'État français. Donc en fait, ça coûte beaucoup plus cher pour l'instant que ce que ce truc va pouvoir ramener. Je vous laisse aller voir sur le site montagnedor.fr, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de propagande. Comme toujours, on nous explique qu'il n'y aura pas de problème avec le cyanure, vous savez, c'est utilisé pour l'extraction de l'or. On nous explique que tout le va être filtré, tout va être bien marqué, coincé, et qu'il y aura tout est prévu pour les fuites. Alors si tout est prévu pour les fuites, c'est que les fuites, elles peuvent avoir lieu. Moi, c'est la conclusion que j'en ai faite.
J'ai pas souvenir d'avoir vu une seule mine d'or respectant l'environnement dans le monde. Donc, c'est tout, elles sont toujours qualifiées de destructrices de l'environnement. Donc voilà.
D'autant plus qu'il y a beaucoup de
pluie. Retourner. Oui,
puis c'est une région. Et donc, c'est-à-dire que ça bouge le terrain, quoi. Donc voilà, il n'y a aucune certitude de rien.
Ils sont obligés de couper des arbres aussi pour creuser, enfin voilà.
C'est... Donc c'est une catastrophe, allez voir aussi hein, sur Hors de Question leur dossier qui explique bien pourquoi il faut s'opposer collectivement et même ici, à l'autre bout du monde, de ce qui se passe en France à l'autre bout du monde.
Une dernière petite info environnementale autour de l'Italie. J'avais parlé du démantèlement des centrales en Italie. Là, on va revenir sur la décision qui a été annoncée le 24 octobre, donc il y a quelques jours, par le ministre de l'Industrie. Il a annoncé officiellement que l'Italie comptait abandonner les centrales à charbon d'ici 2025. Donc c'est d'ici 8 ans, il compte sortir du charbon. Alors, c'est pas le premier gouvernement qui fait ça. Hein. Le Portugal, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont eux aussi annoncer leur sortie du charbon dans les années qui viennent. C'est notamment en préparation de la prochaine négociation de l'ONU sur le climat qui aura lieu à Bonn, qui doit être une COP 20, je sais pas où on en est, COP 22, 23, 24, je sais pas. Voilà. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Du côté des privé, on va dire, c'est Enel qui l'a annoncé aussi, qui est le plus grand fournisseur italien d'électricité, qui a déclaré lui aussi qu'il arrêtait tout investissement dans de nouvelles centrales à charbon. Alors on imagine bien garder celle qu'il a, mais il n'en construira plus de nouvelles. Donc c'est plutôt pas mal. On sait qu'en Europe, hein, la majorité des pays sont exprimés un peu de la même manière, sauf deux, la Grèce et la Pologne. La Pologne qui est un pays pro-charbon, hein, on le sait, qui est pro-destruction de l'environnement, la Pologne de toute façon. Donc c'est plutôt bon signe, à savoir que de la même manière, l'Italie a annoncé avoir arrêté le nucléaire dans les années 80 et est en train de démanteler. Donc c'est un pays qui s'oriente vers une production électrique différente, c'est-à-dire sans nucléaire et sans charbon. C'est un vrai progrès qui devrait donner des idées. Alors à la France, on n'est pas sûr, hein, parce qu'a priori, EDF n'est pas parti pour abandonner le nucléaire. Il n'y a pas beaucoup de centrales à charbon en France, il y en a quelques-unes où certains politiques, comme je crois le Premier ministre, s'opposent à la fermeture. Mais en tout cas, ils sont arrivés à sortir et du nucléaire et du charbon, ce qui est plutôt pas mal. Alors l'idée, c'est d'atteindre 27% de consommation d'énergie pour l'ensemble du pays, hein. C'est pas que l'électricité, à partir des renouvelables d'ici 2030, donc ce qui est beaucoup. Donc voilà, on va voir comment ils vont faire. Ils vont sûrement passer une partie au gaz, ils ont déjà pas mal de gaz, peut-être au biogaz. Enfin voilà, en tout cas, c'est un beau progrès pour l'Italie, qui est pas toujours le pays qui est cité en exemple, hein, pour plein de choses. Bah, c'est pas mal de le citer en exemple quand le pays fait des choses plutôt pas mal. Voilà, on n'a pas parlé de l'incendie des voitures de flics qui a eu lieu encore dans la région de Grenoble hier.
C'est le bâtiment qu'on peut...
Oui, les bâtiments aussi, des voitures et le bâtiment. Parce qu'on n'a pas d'infos, on ne sait pas du tout d'où ça vient, les hypothèses sont nombreuses. Bien sûr, on accuse un groupuscule d'ultra-gauche libertaire.
Anarcho-noir, ils ne savent plus bien comment dire, les journalistes.
Ce qui peut être le cas, et voilà. Ça changerait un petit peu la donne, hein, mais on n'a pas plus d'infos, donc on n'en a pas parlé. En tout cas, pour terminer, un petit agenda rapide. Oui, tu voulais dire ?
On n'a pas parlé de plein de choses, en fait.
Oui.
Pour tout dire.
Mais ça, c'est juste à côté de chez nous. Donc, samedi, à la Griffe, une conférence débat à 15h autour d'un ouvrage qui s'appelle A45, mise en examen. Donc, je vous rappelle, l'A45, c'est le projet d'autoroute, de nouvelle autoroute entre Lyon et Saint-Étienne, avec beaucoup d'opposition. Donc, c'est un livre contre, bien évidemment. Les auteurs seront invités. Enfin, une des auteurs qui s'appelle Julia Lourdes. Voilà, c'est l'occasion de parler d'un de ces projets inutiles. Il y en a plein dans la région. Il y a Roibon, où il y a des fêtes très bientôt d'ailleurs des opposants. Il y en a d'autres, et donc là il y a la 45 pourrie. Mais le projet est plutôt mal parti en ce moment, donc on est plutôt optimiste. En tout cas là, pour en discuter, pour avoir plus d'infos, c'est samedi à 15h à la librairie La Griffe, rue Sébastien Griffe, métro Saxe Gambetta.
On n'a pas parlé par exemple de la Catalogne, mais on doit vous dire qu'on a du mal à suivre. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses, des fois, alors nous on a écouté des discours, et puis des fois on s'est demandé après, toi t'as compris ce qu'il a dit ? Non, je suis pas sûre. Alors on s'est rendu compte que d'autres n'avait pas compris non plus, donc on a été rassurés de se dire qu'on n'est pas juste bébêtes.
Ouais. Ah ben c'est les nationalistes, et notamment le leader nationaliste, est pas clair du tout. On sait que demain, l'Espagne, le Sénat espagnol, va se prononcer sur la mise sous tutelle, ou la fin de l'autonomie de la Catalogne, et après, bon, on verra bien comment ça se passe. De toute façon, moi je reste...
Il y avait encore de grosses manifestations aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a du mal à suivre quand même, hein, c'est entre ce qui peut se passer, ce qui va se passer, ce qui s'est passé et ce qui ne se passera jamais.
Voilà. On se retrouve la semaine prochaine, 19h-20h. Passez une bonne soirée et demain, 19h pour le prochain Canu Info.
Ciao, à bientôt.
Bye bye.